Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi. Marianne Paquette au micro, heureuse de vous retrouver pour ces 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Prendre un verre, partager une bonne bouteille, c'est quelque chose que l'on fait assez souvent ici au Québec. Hein. On pourrait dire que c'est inscrit dans nos mœurs, que c'est accepté, bien toléré. En fait, selon l'Association pour la santé publique du Québec, 85 % de la population québécoise consomme de l'alcool. Rien d'étonnant jusqu'à maintenant. De ce nombre, 71 sont des consommateurs réguliers et près d'un Québécois sur cinq consomme de façon excessive. Et pourtant, l'alcool, c'est le sixième facteur de risque pour la santé au pays. Sa consommation est associée à 200 problèmes, autant des problèmes jugés sociaux que des problèmes de santé. Il y a une équipe de chercheurs du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal qui s'est penchée sur l'impact de beuverie express, c'est-à-dire de boire beaucoup en peu de temps pour la santé, sur la santé de jeunes adultes. Et j'en parlerai tout à l'heure avec l'auteur principal de cette étude, Jennifer Loughlin, elle qui est également chercheure, mais aussi professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Tout ça en deuxième partie d'émission. D'abord, vous dire que si vous habitez Montréal, vous avez peut-être déjà aperçu le camion blanc de Médecins du Monde dans différentes rues de la ville et peut-être sans vous douter que ça abritait une clinique médicale mobile, une clinique assez hautement technologique, il paraîtrait. C'est la première du genre en Amérique du Nord et tout ça dans le but d'offrir des soins à des personnes plus vulnérables, des personnes plus marginalisées qui, pour différentes raisons, n'auraient pas le premier réflexe d'aller à la clinique du quartier ou à l'urgence la plus proche lorsque vient le temps de se soigner, de se traiter. Je parle de cette clinique à l'instant avec le docteur Nicolas Bergeron, psychiatre au CHUM et président du CA de Médecins du Monde Canada. Nicolas Bergeron, bonjour.
Bonjour.
Cette clinique, elle est assez récente, là. Ça fait à peu près un an et demi que vous l'avez lancée du côté de Médecins du Monde, mais pourtant, ça fait depuis un peu plus de 15 ans que vous sillonnez les rues de Montréal pour donner des soins à des personnes plus vulnérables, plus marginalisées. Qu'est-ce qui a changé dans l'approche avec la venue de cette clinique mobile?
Je pense que c'était certainement en continuité avec notre mission qui est celle d'offrir et promouvoir l'accès aux soins de santé pour les personnes, vous avez bien mentionné, vulnérables et exclues. Et donc, dans cette idée de performance pour l'accès aux soins, vous le disiez même en introduction, les personnes n'en vont pas aux soins ou s'est laissées à côté, souvent parce qu'ils ont une mauvaise expérience, les hôpitaux sont pas toujours hospitaliers, ou encore ils sont trop malades, que ce soit des problèmes de santé mentale graves, ou autre. Donc, l'idée, c'est que si ces personnes-là qui ont des besoins n'en vont pas aux soins, alors il faut que les soins se rendent à eux. C'est notre la prémisse, je dirais, de notre action. Et c'était surtout aussi de porter un peu l'innovation complémentaire au système de santé publique pour aller vers ces gens-là. Donc, c'était, je dirais, naturel que nos infirmières et infirmiers, nos médecins volontaires, qui déjà, avec nos partenaires à Montréal, donnaient des services de santé. Là, c'était d'amener, plutôt qu'un sac à dos, mais d'avoir quelque chose, un outil un peu plus précieux, qui est celle d'avoir une petite clinique, si on veut. Donc, c'était tout à fait naturel qu'on poursuive notre mission avec la clinique mobile.
Docteur Bergeron, je lisais que pour entrer dans la clinique, on passe par l'arrière, et je me disais, ça doit être assez discret. Est-ce qu'il y avait ce désir-là d'un petit peu protéger votre clientèle en offrant des soins, mais d'une façon plus discrète, plus digne?
Bien, évidemment, les organismes où on allait faire un peu des cliniques offraient des locaux et vous l'avez mentionné, c'était pas toujours facile d'avoir une certaine intimité, de raconter son histoire ou ses difficultés, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Donc, effectivement, le camion de soins offrait un retrait, donc une plus grande intimité dans la rencontre d'un soignant ou encore d'un accompagnement social qui pouvait se faire. Mais c'est aussi, je dirais, de permettre à des gens qui vont même pas dans les refuges ou qui passent dans la rue d'avoir accès aussi à venir nous rencontrer. Et ça, on s'est rendu compte qu'on allait chercher plus de monde de cette façon-là. Donc, cette intimité-là est aussi un plus grand accès.
Intimité, ça m'amène à me dire aussi une façon de briser l'isolement. Parfois, ces gens-là ont simplement envie d'être entendus, d'être écoutés.
Certainement. On passe par le petit problème, la plaie, une engelure, oui. Une douleur, un problème respiratoire ou encore une détérioration d'un problème plus chronique pour effectivement expliquer notre trajectoire, des traumatismes vécus, passés, qui font encore extrêmement pression sur l'émotion rencontrée par ces personnes-là. Donc, bien sûr, on écoute, bien sûr, on accueille, je dirais, la tragédie, non pas du bobo physique seulement, mais de la personne au complet, et ça inclut effectivement de cette idée-là de partager ses difficultés. Mm-hmm. Ce qui n'est pas toujours évident, par contre, parce que, comme par exemple, on a remarqué depuis, ça fait seulement un an et demi, vous l'avez mentionné, mais on a une augmentation, la présence de non seulement de personnes qui viennent nous voir, mais aussi des populations autochtones. À peu près le 30% sont des personnes qui viennent dans les Premières Nations et Inuit. Et de raconter ces histoires pour ces personnes-là, si on n'a pas une sensibilité culturelle, ça devient beaucoup plus complexe. Et ils ne la rencontrent pas dans les services de soins qui sont offerts à Montréal. Donc, nos infirmiers, infirmières pas expérimenté, mais apprivoiser un peu cette culture-là. Ils sont culturellement très sensibles à ce qui se passe. Et ça permet donc un meilleur dialogue. Mais c'est pas toujours évident.
En un an et demi, plus de 3000 interventions passant de vaccins, de tests de dépistage, d'examens généraux. J'ai envie de faire une forme de comparaison avec les tout débuts, 1999, où vous avez commencé à rencontrer ces populations plus vulnérables. Est-ce que les besoins vont toujours en croissant, Dr Bergeon?
Je pense que les besoins sont semblables. Peut-être qu'il y a ce qui est nouveau, en fait, c'est le visage un peu. J'ai parlé des populations autochtones. Il y a des personnes aussi plus âgées. Donc, c'est pas l'image des jeunes fugueurs, délinquants. On voit des personnes plus âgées aussi qui sont en situation d'itinérance. Donc, avec des problèmes de maladies chroniques comme le diabète, problèmes cardiaques et qui amènent certains malaises. Et évidemment, un problème de santé mentale, toxicomanie, c'est certainement la moitié présent chez la moitié des personnes en situation d'itinérance. Alors, ça, c'est toujours présent. Donc, l'idée, c'est de essayer de participer de façon complémentaire au système public, à leur offrir quelque chose. Et puis, c'est ce qu'on fait effectivement depuis 1999, du mieux qu'on peut. Ce qu'il y a de bien, c'est que la clinique mobile nous permet un outil de performance, puis même d'aller dans d'autres endroits où on n'allait pas avant, des endroits un peu plus reculés sur l'île de Montréal, où il y a des jeunes qui peuvent bénéficier de dépistage d'infections transmises par le sexe ou le sang, des tests de grossesse, vaccination. Donc, on va dans les crack house, on va dans les endroits où c'est la marginalisation plus extrême pour leur permettre de rencontrer, je dirais, non seulement d'offrir des soins, mais surtout d'avoir une expérience positive avec des soins. Ouais. Et ça, c'est un élément qui est pour nous qui est à cœur. Donc, ces expériences-là, ces petits succès permettent, via la santé, dans le fond, une forme de réaffiliation sociale qui évidemment, qui est qui a été éprouvé dans les années et qui explique aussi le fait qu'il se retrouve dans la rue.
Est-ce que c'est une façon pour vous de réintégrer ces personnes à des services de soins de santé plus réguliers, c'est-à-dire plus institutionnalisés?
Bien, c'est un des objectifs, évidemment. Alors, notre clinique, évidemment, est un peu limitée en termes de ce qu'on peut faire comme intervention, mais lorsqu'il y a des problèmes qui sont plus graves, donc nos équipes sont capables de faire cette liaison avec le système de santé. Et de sens inverse aussi, il y a des intervenants, notamment qui travaillent avec les jeunes en santé mentale, qui nous accompagnent avec notre clinique mobile. Donc, c'est l'institutionnel qui vient avec nous. Et permet, dans le fond, d'aller chercher les personnes où elles se trouvent pour leur offrir les services. Donc, on a cette liaison-là. Ça permet aussi d'avoir une forme de veille épidémiologique, un peu voir quel est l'état de la situation, le problème, ce qui se passe. Donc, vous avez mentionné, on était un peu à la fin de point de la technologie. On a un dossier médical électronique qui a été adopté pour nous par TELUS Santé et on est capable, de façon anonyme, la plupart du temps, on est capable d'avoir un certain suivi des personnes qu'on peut revoir ou encore là de permettre la liaison avec les hôpitaux s'ils ont besoin de davantage de soins et aussi d'avoir... de mesurer un peu c'est quoi quel est l'état de la situation en termes de problèmes de santé dans ces populations-là.
Une façon aussi de faire une continuité dans les soins, c'est-à-dire que si la personne, dans un an, deux ans, se présente à l'urgence, toutes ces données sont là, les renseignements aussi liés à son profil de santé, son bilan de santé sont bien inscrits.
Oui, et évidemment, toujours avec cette importance éthique de la confidentialité. Et si les gens veulent garder l'anonymat, c'est aussi préservé. Donc, ça, pour nous, c'est important. Et effectivement, à ce moment-là, on est capable de donner de l'information, la partager, évidemment, avec l'accord de la personne pour pouvoir mieux le servir. Et je dirais que quand même, on a un certain succès puisque peut-être autour de peut-être le tiers des personnes ont réussi à les réintégrer dans le système de santé qui est existant. Donc, il y a un impact qui se mesure dans ce continuum de soins. Donc, on est dans des soins de proximité à bas seuil, qu'on appelle, puis bien, on est capable de peut-être remonter. Puis, c'est une expérience, comme je disais, positive pour se raccrocher le système et la société en général.
Une façon aussi de faire de la prévention, ce que je considère c'est un aspect assez important.
Médecins du Monde a toujours eu une approche basée sur le droit à la santé, puis une approche de santé publique aussi. Donc, les aspects de prévention, de promotion de la santé sont extrêmement importants. Donc, c'est pour ça qu'on a la possibilité de faire du dépistage d'infection, des tests de grossesse, de faire, évidemment, lorsqu'il y a une plaie ou un problème relié à un usage excessif d'alcool ou bien de drogue, bien évidemment, on est capable de donner de l'information juste pour que les personnes aussi s'approprient leur santé, comprennent un peu que signifie faire telle activité, d'avoir tel comportement, et puis de leur donner un peu une forme de reprise sur leur propre santé. Et pour nous, c'est important. Donc, cet aspect de santé, et promouvoir la santé, leur donner des outils pour être capables de le faire eux-mêmes et de prévention. Alors, petit bobo deviendra grand. Évidemment, si on traite une petite infection, une petite brûlure, avant qu'elle devienne s'infecte et puis qu'on arrive à une amputation quelques semaines, quelques mois plus tard, ben c'est évidemment immense et en termes de coûts aussi, c'est très percutant.
Oui. Depuis tantôt, Dr Bergeron, on parle de cette clinique hautement technologique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le camion de Médecins du Monde?
Ben, la technologie, je pourrais dire, il y a certainement de l'innovation parce que je trouve que les gens qui participent nos bénévoles, qu'ils soient médecins, infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux, je dirais que c'est là où ce qu'il y a de plus innovant ou je dirais une source d'air frais peut-être au niveau de concevoir la santé, pas juste en termes de coûts de dépenses, mais dans relation d'aide.
Oui.
Alors, et d'un point de vue plus de technologie, bien, le dossier médical électronique est en fait possible sur le camion. Peut même être transporté, je dirais, sur tablette ou sur téléphone.
Oui.
Donc, nos infirmiers, par exemple, vont pouvoir prendre une photo d'une infection ou bien d'un autre problème, expliquer avec un médecin qui est de garde. Et puis envoyer, le médecin peut avoir accès au dossier de chez lui ou de l'endroit de sa clinique et peut commenter, peut faire une ordonnance directement à la pharmacie pour cette personne-là. Donc, vous voyez, on a l'utilisation de façon sécuritaire et confidentielle d'informations et puis permettre de tous les soignants qu'on a accès à des spécialistes, de pouvoir commenter directement et aider nos équipes là-dessus. Donc, on a un dossier, on a de l'information, puis on a une capacité de liaison entre nous qui est accrue.
Est-ce qu'il y a un moyen aussi de référer, c'est-à-dire des problèmes? Je pense notamment aux problèmes de santé mentale. On le sait, c'est assez préoccupant auprès de la population de personnes itinérantes. Est-ce qu'il y a une façon de référer à des médecins psychiatres?
Ça, c'est un grand... moi-même, étant psychiatre, je sais que c'est une grande difficulté de l'accès à des services de psychiatrie. Je pense qu'on est... Médecins du Monde, enfin, veut être un peu un ligand avec les organisations et les organismes qui sont les refuges, les centres de jour ou les autres qui évidemment rencontrent ces personnes-là. Puis, les services de psychiatrie. Et puis, on se retrouve un peu à faire un peu des liens, on facilite, et on a des projets là sur la table sur justement d'améliorer cette liaison et puis aussi de permettre aux intervenants eux-mêmes dans les organismes qui travaillent avec les populations itinérantes d'être plus performants eux-mêmes, de savoir un peu quoi faire. Donc, les liens avec la psychiatrie sont peut-être facilités ou en fait on essaie de le faire. Et comme je le mentionnais aussi, on accueille sur notre clinique mobile, à notre clinique mobile, des gens qui viennent déjà des équipes en psychiatrie.
Mm-hmm.
Donc ça permet de faire la liaison est tout à fait directe. Puis l'idée, c'est que c'est un peu les mêmes personnes se retrouvent, les mêmes soignants se retrouvent, apprennent à travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est ça qui est sympathique. C'est une forme de ramener dans un forum autour de la clinique mobile, dans le fond, l'institutionnel, et puis le communautaire proche des besoins des personnes qu'on rencontre.
Sur une note un petit peu plus festive, Dr Bergeron, Médecin du Monde Canada, va célébrer ses 20 ans d'existence. Une excellente nouvelle. Est-ce qu'on célèbre également une diminution des inégalités sociales en matière de santé?
J'aimerais bien vous dire oui, mais malheureusement, je pense qu'il y a des périodes où ça va mieux, des périodes où ça va moins bien. Je pense qu'on a traversé une période de régression à ce niveau-là. Et puis, Médecins du Monde se porte un peu en contrepoids par rapport à améliorer donc l'accès, particulièrement pour des personnes plus vulnérables. Et on a été témoin de l'abolition du programme fédéral de santé intérimaire du fédéral pour les réfugiés qui vient juste la semaine dernière d'être mis par le gouvernement libéral. On connaissait un peu la bataille de l'ancien gouvernement sur les sites d'injection supervisés.
Oui.
On a amputé les budgets des directions de santé publique au Québec de 30%. Donc, on peut pas dire que ça va très, très bien. Il y a malheureusement un modèle qui est basé beaucoup sur la productivité, une valeur, une logique marchande sur la santé en ce moment, qui ne permet pas, je pense, à faire des progrès au niveau de l'accès pour les personnes vulnérables et donc de travailler sur ces déterminants sociaux de la santé. Et c'est pour ça que Médecins du Monde, je pense, a davantage faire cette idée d'avoir ce contrepoint pour améliorer la chose. Alors, on espère évidemment que les États, le système de santé publique penchera toujours un peu plus et un peu mieux. Mais je dois malheureusement dire que dernièrement, on a eu un peu de régression.
Oui, parce que ce que j'entends, c'est que Médecins du Monde et d'autres soignants ont besoin de l'appui des décideurs.
Bien, je pense qu'on est... Médecins du Monde est une goutte, peut-être une goutte qui veut faire un peu plus de bruit, porter la voix de...
Une goutte qui veut faire une vague.
Oui, merci. En effet, peut-être pas le tsunami, mais certainement des vagues. Et bien sûr que la santé sur un territoire donné incombe aux États d'être capable d'offrir des services de santé, mais ça inclut aussi la prévention, la promotion de la santé. Et puis d'avoir, je dirais, comme un bon père de famille ou une bonne mère de famille, une bienveillance sur des soins de santé primaire, certainement pour la population. Et puis, évidemment, il y a des impératifs financiers extrêmement difficiles. On en parle presque quotidiennement, hein, cette idée de comment on améliore l'accès aux soins sans que ça coûte trop cher. L'idée, c'est de permettre... démontrer qu'à coût moindre, on est capable de faire, d'avoir un impact sur la santé des gens et que ça soit donc économiquement rentable pour tout le monde de s'occuper de ces populations vulnérables.
Oui. En attendant, on dirige les gens vers médecinsdumonde.ca afin de visionner cette vidéo très touchante, Nicolas Bergeron, faite auprès de jeunes écoliers dans le but de les sensibiliser aux inégalités en matière de santé. Puis c'est une bonne façon aussi de nous ramener, nous les adultes, là, à la bonne place, je dirais, et de revoir nos priorités. Ça a été un plaisir de vous parler. Je le rappelle, vous êtes psychiatre au CHUM et président du CA de Médecins du Monde Canada.
Merci de l'invitation.
Merci, au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Jennifer Loughlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteure principale de l'étude sur ces impacts d'une consommation d'alcool excessive chez les jeunes adultes. Également, bon, chercheure et professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Jennifer, des chiffres quand même assez dérangeants. Je pouvais lire qu'au Canada et aux États-Unis, 4 jeunes sur 10 âgés entre 18 et 24 ans ont l'habitude de soirées fortement arrosées, des soirées arrosées d'alcool, bien sûr. Je pense que l'on peut affirmer que les jeunes adultes consomment beaucoup d'alcool ici au Canada.
Oui, ça c'est ce que les chiffres nous disent, sûrement. Mais ça c'est une habitude, puis on va étudier ça dans la prochaine étape de notre étude. Ça c'est une habitude qui habituellement diminue avec l'âge. Donc, une fois qu'une jeune personne doit assumer les responsabilités pour le travail, pour la famille, pour les enfants et tout ça, ce type d'habitude diminue.
Votre équipe, Jennifer, s'est penchée sur l'impact des beuveries express sur la santé des jeunes adultes. C'est quoi ça d'abord, les beuveries express?
Okay, la définition officielle pour ça, c'est 5 boissons à l'occasion et l'occasion se définit comme 2 heures ou moins. Donc, si vous consommez 5 bières à 12-11 dans une période de 2 heures, ça c'est catégorisé ou... Comme une breuverie express.
Ou du binge drinking.
Binge drinking, c'est ça.
Voilà. Quels sont ces impacts pour la santé des jeunes du point de vue de leur santé globale?
Il y a des effets Sur l'embonpoint, si vous consommez beaucoup d'alcool, il y a des calories dans l'alcool, puis ça peut causer des problèmes d'embonpoint. Il y a évidemment des problèmes immédiats, les accidents de route, des problèmes de comportement sexuel pas bien contrôlés. Il y a des problèmes immédiats comme ça, puis ça c'est très certain, pas des nouvelles pour des personnes. Ce qui est nouvelle avec notre étude, c'est le fait que ce type de comportement, même quand on est jeune, peut accroître le risque des problèmes de santé dans le futur. C'est-à-dire que notre étude a démontré qu'avec ce type de comportement une fois par mois, il y a une augmentation de 2 mm à mercure comparé aux gens qui boivent alcool, mais pas de cette façon. Si c'est plus qu'une fois par mois, disons 2 fois par mois, c'est 4 mm. Donc, c'est à peu près, dans notre étude, c'était à peu près 1 mm Hg par année. Si vous faites ce type de comportement pour 10 ans, ça c'est une augmentation de 10 mm dans votre pression systolique qui est très, très, très problématique.
Et ça, ce sont des études que vous avez effectuées, Jennifer, avec votre équipe, sur plusieurs jeunes, une assez grosse cohorte, 1294, je crois, et pendant plusieurs années.
C'est ça. Puis dans cette... Et ça, c'est une cohorte qui s'appelle l'étude NICO en français, ENDIT en anglais. Puis on a suivi, on a commencé le suivi en secondaire 1, c'est-à-dire 12 à 13 ans. Puis on les a suivis jusqu'à 24 ans. Puis maintenant, on vient de recevoir une subvention de Canadian Cancer Society pour suivre jusqu'à 30 ans.
Oui. En terminant, Jennifer, comment on peut sensibiliser les jeunes, les familles, leurs familles également, à peut-être avoir une consommation d'alcool un petit peu plus responsable?
Je pense que qu'est-ce qu'on fait actuellement? Discuter ça à la radio,
ouais.
Discuter ça dans les journaux et tout ça, ça c'est une façon très, très, très importante. Je pense aussi que les médecins qui voient les jeunes de cet âge, quand ils commencent à voir une augmentation de la pression, à plusieurs visites, là, il faut discuter les causes de hypertension, élévation de la pression, puis parmi ces causes, c'est cette breuverie express qu'il faut discuter. Aussi à l'école, on peut ajouter ça à la liste des conséquences de ce type de comportement et discuter ça ouvertement avec les jeunes.
Oui, continuer d'en parler pour mieux prévenir et puis sensibiliser les jeunes à de bonnes habitudes de vie. Jennifer Loughlin, vous êtes auteure principale de cette étude, chercheure au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et professeure à l'École de santé publique, toujours de la même université. Merci beaucoup de votre participation.
Merci.
Au revoir.
Bye.
C'était Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console pour la mise en onde de cette émission, Marianne Paquette. Merci d'avoir été des nôtres pendant ces minutes de C'est bon pour la santé. Portez-vous très bien. À la prochaine.